Chapitre 0. Au bord du gouffre. Debout sur le tarmac, je regarde l'avion à bord duquel je suis censé embarquer, en faisant de mon mieux pour ne pas péter les plombs. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Et pas seulement parce que je suis sur le point de laisser ma vie entière derrière moi, même si c'était ma préoccupation majeure il y a encore 2 minutes. Non. Dans l'immédiat, c'est la vue de ce tas de ferraille déguisé en avion qui me fait paniquer.
Alors, Grace ?
L'homme que mon oncle Finn a envoyé me chercher me gratifie d'un sourire patient. Il s'appelle Philippe, il me semble. Je suis pas sûre. C'était dur de l'entendre par-dessus les battements affolés de mon cœur.
Parée pour l'aventure ?
Non. Non, je ne suis absolument pas parée. Ni pour l'aventure, ni pour quoi que ce soit d'autre. Si quelqu'un m'avait annoncé voilà un mois que je me retrouverais bientôt à l'aéroport de Fairbanks, en Alaska, je lui aurais répondu qu'il était mal informé. Et s'il avait ajouté que je quitterais cet aéroport à bord du plus petit coucou du monde, à destination de l'endroit le plus perdu du continent, en l'occurrence une ville située au pied du Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord, je lui aurais carrément ri au nez. Mais 30 jours suffisent à changer une vie. En 30 jours, on peut tout perdre. La seule certitude qui me reste après ces dernières semaines, c'est que même une situation désespérée peut encore empirer. Chapitre 1. Atterrir, c'est se jeter au sol en espérant ne pas louper son coup.
Là-bas !
S'écrie Philippe, tandis que nous survolons des pics enneigés. D'une main, il lâche son manche à balai pour m'indiquer des bâtiments dans le lointain.
Bienvenue à Ely, Alaska.
Waouh ! Cette ville a l'air...
très petite. Vraiment, vraiment minuscule. Bien moins étendue que mon quartier de San Diego. Je ne vois pas grand-chose d'ici, cela dit. Non seulement la ville est tapie dans l'ombre des montagnes qui la dominent, comme autant de titans oubliés, mais en plus, on vole dans un genre de pénombre bizarre que Philippe s'obstine à appeler le crépuscule, alors qu'il est à peine 5 heures. Néanmoins, si mes yeux ne me trompent pas, cette prétendue ville n'est qu'un amas de bâtiments mal assortis.
Très intéressante,
je termine. Ce n'est pas l'adjectif qui m'est venu d'emblée à l'esprit pour décrire l'endroit. Enfer glacé m'avait paru plus approprié. En tout cas, c'est le plus poli. Philippe amorce la descente. Je me prépare à ajouter un affreux accident à la longue liste de tout ce qui m'est arrivé d'horrible depuis que j'ai embarqué à bord de mon premier avion, celui de Philippe étant le troisième, 10 heures plus tôt. Je viens tout juste de repérer ce qui fait office d'aéroport dans cette ville de 1000 habitants. Merci Google. Quand Philippe me dit
« La piste est très courte, parce que sinon elle serait impossible à dégeler. L'atterrissage va être rapide, alors accroche-toi »
Je n'ai aucune idée de ce qu'est un atterrissage rapide. Toutefois, ça ne m'inspire pas du tout confiance. Il y a une barre à l'intérieur de la portière de la cabine, prévue pour ce genre de situation, je parie. Je m'y agrippe de toutes mes forces. Nous perdons de l'altitude.
« Ok, jeune fille, rien ne va plus !»
s'exclame Philippe. Et je range ça dans le top 5 des pires phrases à être jamais sorties de la bouche d'un pilote en plein atterrissage. La piste fonce à notre rencontre, blanche et dure. Je ferme fort les yeux. Quelques secondes plus tard, le train d'atterrissage rebondit sur le tarmac. Philippe freine si brusquement que mon crâne aurait explosé sur le tableau de bord si ma ceinture ne m'avait pas retenue. L'avion gémit. Je ne sais pas si ça vient d'un endroit en particulier ou si c'est l'appareil tout entier qui pousse son chant du cygne. Je m'efforce de l'ignorer. Voilà qu'on dérape vers la gauche. Je me mords la lèvre, garde les yeux résolument fermés et essaye d'empêcher mon cœur de bondir hors de ma poitrine. Si c'est la fin, je n'ai aucune envie de la regarder en face. Je me demande si mes parents ont vu leur mort arriver. Le temps que je chasse cette pensée, l'avion s'arrête en vibrant. J'ai ma réponse à présent. Je tremble de tout mon corps, de la racine des cheveux aux orteils. J'ouvre enfin les yeux. Par politesse, je me retiens de palper mon corps pour vérifier s'il est toujours entier. Philippe rit.
J'ai tout fait comme ils disent dans le manuel de pilotage.
Peut-être que son manuel est en fait un roman d'épouvante, ou qu'il l'a lu à l'envers. Sans répondre, je lui offre le plus beau sourire dont je suis capable et attrape le sac à mes pieds pour en sortir la paire de gants qu'oncle Finn m'a envoyée. Je les enfile, ouvre la portière et saute à terre en priant pour que mes genoux supportent mon poids sans broncher. Ils tiennent. Tout juste, mais ils tiennent. Je reprends mon souffle, le temps de serrer mon manteau autour de moi. Il doit faire moins 15. Une fois certaine que je ne risque pas de tomber dans les pommes, je me dirige vers l'arrière de l'avion pour récupérer les 3 valises qui contiennent toute ma vie. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Ça me fait un choc de les revoir. Bon, le moment est mal choisi pour repenser à ce que j'ai dû laisser derrière moi, ou au fait que des inconnus habitent désormais dans la maison de mon enfance. Après tout, j'ai perdu bien plus que mon matériel à dessin, bien plus que ma batterie adorée, bien plus qu'une maison. Tant bien que mal, j'empoigne une des 3 valises dans la soute et la pose sur le sol. Avant que je puisse prendre la deuxième, Philippe soulève les 2 autres, comme si elles étaient remplies de plumes.
« Viens, Grace, allons-y, avant que tu te transformes en glaçon. »
Il m'indique un parking. Même pas un bâtiment, un parking, à une 100aine de mètres. Je me retiens de grogner. Il fait si froid. Ce n'est plus à cause de la frayeur de l'atterrissage que je tremble. Comment font les gens pour vivre ici? C'est surréaliste. Ce matin, à mon réveil, le thermomètre affichait 20 degrés. Ai-je le choix? Je saisis ma valise par la poignée et la traîne vers la bande de béton qui constitue sans doute l'aéroport de Ely. On est bien loin des terminaux bondés de San Diego. Philippe me rattrape vite, une valise dans chaque main. Alors que je m'apprête à lui dire qu'il peut utiliser les roulettes, je comprends, dès qu'on quitte la piste, pourquoi il préfère les porter. Il y a de la neige partout. Impossible de faire rouler des valises là-dessus. Malgré mon épais manteau et mes gants en fausse fourrure, je suis frigorifiée avant même d'avoir parcouru la moitié du parking. J'ignore comment je suis censée effectuer la dernière partie du voyage jusqu'à l'internat, dont mon oncle est le directeur. Avant que je puisse demander à Philippe s'il y a des Uber par ici, une silhouette émerge de derrière un camion et court à ma rencontre. Je crois que c'est Messi, ma cousine, sans en être certaine. Elle est emmaillotée des pieds à la tête dans une combinaison protectrice.
« Tu es là !»
s'écrie la pile ambulante de bonnets, d'écharpes et de manteaux.
« Oui, c'est bien Messi. »«
Je suis là !» je confirme, tout en me demandant s'il est trop tard pour envisager un placement en famille d'accueil. Ou l'émancipation. Peu importe ce qui me permettrait de rester à San Diego, ça doit valoir mieux que de vivre dans une ville dont l'aéroport consiste en une unique piste et un minuscule parking. Heather va hurler quand je lui raconterai.
« Enfin !»
ajoute Messi. Elle tente de m'enlacer, ce qui est un peu compliqué comme manœuvre vu qu'elle porte 3000 couches de vêtements. En plus, même si elle a 16 ans et moi 17, elle fait une tête de plus que moi.
« Ça fait plus d'une heure que j'attends !»
Je la serre contre moi. « Désolée, mon avion a eu du retard à Seattle. Une tempête nous empêchait de décoller. » Elle grimace.
« Ouais, ça arrive souvent. La météo là-bas est encore pire que la nôtre. »
J'ai envie de protester. Ici, tout est enfoui sous des kilomètres de neige et les gens portent des combinaisons protectrices qu'enviraient les astronautes. Mais je ne connais pas très bien ma cousine et je ne veux surtout pas la vexer. À part oncle Finn et Philippe, c'est la seule personne qui m'est familière ici. Ainsi que la seule famille qui me reste. Je me contente de hausser les épaules. Ça semble la satisfaire. Elle me sourit avant de se tourner vers Philippe, qui porte toujours mes valises.
Merci d'être allé la chercher, Phil. Papa m'a chargé de te dire qu'il te doit un pack de bière.
Pas de souci, Mace. J'avais quelques courses à faire Banks, de toute façon.
Répond-il avec naturel. Comme si effectuer un vol de 200 km n'avait rien d'exceptionnel. De fait, il doit avoir l'habitude, étant donné qu'il vit encerclé par des montagnes enneigées. D'après Wikipédia, il n'y a qu'une seule route qui mène à Ely, et elle est parfois fermée l'hiver. Ça fait un mois que j'essaie de m'imaginer ce que c'est de vivre comme ça, aussi isolé. Je vais pas tarder à le savoir.
Il te l'apportera vendredi avant le match,
ajoute Messi, avant de se tourner vers moi.
Papa regrette de ne pas avoir pu venir t'accueillir, Grace. Il y a eu une urgence à l'école et personne d'autre ne pouvait s'en occuper. Il m'a demandé de le prévenir dès qu'on arrive.
T'inquiète, je souffle.